Non, je voudrais revenir un petit peu à votre tentative de suicide. Là. Quel rapport maintenant
c'est
qu'on
pas
a un
suicide.
Petit peu, oui.
C'est
maintenant
pas
qu'on
un suicide,
a un petit peu parlé de.
C'est une fuite.
Oui.
Je n'en pouvais plus. Mm-hmm. J'ai pris ça pour oublier, pour dormir.
Mm-hmm. À quoi vous cherchez à échapper en faisant ça? Vous avez des influences mauvaises? Vous avez des.
La solitude.
C'est la solitude. Mm-hmm.
Et l'impossibilité de réaliser les idées que j'ai dans la tête.
Qu'est-ce que vous pourriez réaliser, justement?
Être pianiste.
Oui. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses que vous pourriez réaliser.
Oui, il y en a trop.
Claudine Nogaret, et vous, qu'est-ce qu'un mur, qu'est-ce qu'une frontière pour vous? Quelle image mentale vous vous en faites après ces 30 années à tourner aussi autour de cette question de l'enfermement?
Oui, c'est vrai qu'avec des films comme Urgence, Dixième Chambre, Délit flagrant, on a abordé l'enfermement et la lutte des gens pour pas être enfermés. Mais moi, personnellement, je reste très curieuse de ça, de pourquoi, en notre nom, la société décide qu'on doit soigner des gens ou qu'on doit les enfermer. C'est vraiment de la curiosité. J'ai pas peur d'être enfermée puisque j'ai du mal à avoir des chaînes et à avoir des murs. Mais je reste très curieuse de ça.
Si curieuse que 30 ans après, Urgence, tournée aux urgences psychiatriques de l'Hôtel Dieu de Paris, après aussi Sainte Clémente qui était dans un asile psy en Italie, vous en avez fait un nouveau film documentaire l'un et l'autre. Il s'appelle 12 jours, il sera en salle mercredi prochain et vous restez avec nous pour en parler dans la deuxième partie de la Grande Table. Claudine Nogaret, Raymond Depardon sont nos invités jusqu'à 13h30.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente « La face cachée de la Lune » de Robert Lepage avec la compagnie Ex Machina. Au départ, deux frères que tout oppose et le décès de leur mère. À la fin, leur réconciliation. En chemin, des fils narratifs sur le monde. Entre conquête de l'espace et récits personnels, Robert Lepage nous embarque dans la magie d'un récit en constante métamorphose, interprété par Yves Jacques. « La face cachée de la Lune » du 24 novembre au 2 décembre à la Villette à Paris, dans le cadre de la programmation hors les murs du Théâtre de la Ville. Un partenariat France Culture.
France Culture, il est 13h30. Tout de suite, l'heure du journal de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour. Emmanuel Macron peut-il réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? Son ministre Nicolas Hulot présentait en tout cas ce matin son plan d'action pour inciter les Français à rénover leur logement, en finir avec les passoires thermiques. On passe clairement à la vitesse supérieure en la matière, nous dira Véronique Robérotte. Jean-Luc Mélenchon lui fait la chasse aux fantômes de l'ancienne gauche. Interview aux Parisiens et ouverture à des alliances possibles à gauche. De quoi lancer le débat alors que la France insoumise tient sa convention nationale ce week-end. Une nouvelle tête pour diriger le très sensible Conseil supérieur des programmes scolaires, c'est Souad Ayada qui succède à Michel Lussault, lequel avait claqué la porte avec fracas au mois de septembre. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur la cérémonie d'investiture du nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, qui a prêté serment ce matin devant un stade d'Harare archi-comble. En Allemagne, Martin Schulz n'a pas eu le dernier mot dans son propre camp. Les sociaux-démocrates du SPD vont bien participer aux discussions de la dernière chance pour tenter de former une coalition de gouvernement. Quant à notre invité pour la séquence interview, c'est le politologue Pascal Perrino. Il va nous dire ce qu'il y a derrière ce terme de vote disruptif qui aurait caractérisé les dernières élections. Vote disruptif, c'est le titre d'un ouvrage collectif que Pascal Perrino a dirigé aux presses de Sciences Po. Tout ça va nous amener à la deuxième partie de la Grande Table. Olivia, on ne change pas, une équipe qui gagne.
La santé mentale sous main de justice, le tout dans la caméra de Raymond Depardon et Claudine Nogaret. On en parle à l'occasion de la sortie en salle de leur film documentaire 12 jours, mercredi prochain. Ils seront rejoints dans la deuxième partie de l'émission par le journaliste spécialiste de la psychiatrie française, Patrick Coupchou, auteur de « Mon combat pour une psychiatrie humaine ».
C'est un véritable Green Deal que Nicolas Hulot veut passer avec la population française. Une nouvelle donne environnementale, présentation ambitieuse, c'est vrai, pour le ministre de la Transition écologique qui dévoilait donc ce matin les mesures censées accélérer la rénovation de nos logements, faire baisser notre consommation d'énergie et donc nous permettre de lutter vraiment contre le réchauffement climatique. En ligne avec nous, Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté à la présentation de ce plan tout à l'heure, il y a donc un peu plus d'une heure, Nicolas Hulot, qui met en musique les engagements d'Emmanuel Macron. Il s'agit vraiment de passer à la vitesse supérieure sur la rénovation thermique.
Oui, c'est ça. C'est un plan de massification, d'amplification de la rénovation énergétique qu'a présenté ce matin donc Nicolas Hulot. Plan soumis à la concertation jusqu'en janvier 2018, qui se veut avant tout, a-t-il dit, un plan social. C'est a insisté le ministre, à la fois de la transition énergétique, mais aussi de la solidarité. Près de 4 millions de Français sont actuellement en situation de précarité énergétique, mal chauffés, logés dans de véritables donc passoires thermiques. Ce plan de rénovation, entièrement financé, a insisté le ministre, à hauteur de 14 milliards d'euros pendant le quinquennat, et sous forme de dotation, de subvention, de prêt, doit permettre, eh bien, d'éradiquer ces passoires thermiques. 500 000 logements rénovés par an, dont 100 000 logements sociaux. Les propriétaires privés bénéficieront d'aides déjà existantes, hein, pour la plupart, crédit d'impôt, mais parfois transformés en primes, éco-prêts à taux zéro, etc. Des dispositifs que le gouvernement entend être incitatifs et simplifiés. Ce vaste plan de rénovation énergétique, eh bien, pourrait s'appuyer aussi sur de nouveaux dispositifs fiscaux. Nicolas Hulot ne les a pas vraiment évoqués. C'est une piste, a-t-il dit. Il envisage donc la création d'un bonus-malus pour les logements. Les propriétaires non vertueux en matière d'isolation, de rénovation, verraient leur taxe foncière alourdie. Toujours de l'écologie incitative, dit-il, mais pas punitive. On l'écoute.
On est dans l'incitatif. Si les gens rénovent leur habitation, et notamment parfois dans le collectif, d'ailleurs on a démontré que ça marche aussi avec les copropriétés. Mais si on incite les propriétaires à rénover, on redonne aussi de la valeur. On va regarder tout cela. On va le regarder d'autant plus finement que, comme le président hier a annoncé qu'on allait regarder aussi la fiscalité locale, on va essayer évidemment que tout ça ne se chevauche pas.
Alors évidemment, les bâtiments des collectivités, hein, de l'État aussi, sont concernés par ce vaste plan de rénovation. Écoles, hôpitaux, mairies, 120 millions de mètres carrés rénovés d'ici la fin du quinquennat en 2022. Là aussi, la tâche est immense.
Véronique Robérod, spécialiste environnement de France Culture, avec les moyens techniques de Laurent Groux. Et dans cette même rubrique, environnement, une victoire en justice pour les abeilles, ou en tout cas pour les apiculteurs. C'est le tribunal administratif de Nice qui suspend l'autorisation de mise sur le marché de deux nouveaux pesticides fabriqués par la société américaine Dow. Il s'agit du Transform et du Closer, deux produits qui doivent permettre de lutter contre les pucerons, mais qui contiennent du sulfoxaflore, dont le caractère toxique pour les abeilles est reconnu par l'agence Lancet. Le tribunal invoque le principe de précaution pour justifier cette interdiction de mise en vente. Il appelle ses militants à en finir avec les fantômes de l'ancienne gauche. Jean-Luc Mélenchon remet un possible rapprochement avec Benoît Hamon sur la table dans une interview au Paris Aujourd'hui en France. Une interview où le leader de la France Insoumise se pose à nouveau donc la question des alliances à gauche. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
La France Insoumise, il faut le dire, tient sa convention nationale ce week-end à Clermont-Ferrand. Elle semble vouloir se donner un maximum d'ouverture possible.
Oui, c'est un Jean-Luc Mélenchon apaisé et apaisant qui répond aux interviews avec courtoisie et en prenant le temps de l'analyse ces dernières semaines. Il a accordé des entretiens à presque tous les médias quelques jours avant et après le voyage à Athènes où il avait reconnu que Macron avait le point concernant la séquence avortée pour l'instant de la contestation anti-loi travail. Dans cet entretien au journal Le Parisien, publié ce matin, la veille de la convention de la France Insoumise, on est bien loin de l'interview au journal La Provence en septembre dernier. Fini l'aigreur et la rancune envers Benoît Hamon, que le chef de file de la France Insoumise accusait de l'avoir fait perdre en maintenant sa candidature à l'élection présidentielle.
Et sur le blog de Jean-Luc Mélenchon, en revanche, pas de câlinothérapie envers les journalistes.
Deux visages, deux facettes, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ou bien Janus si vous préférez. Il y a 10 jours seulement, il écrit sur son blog « Je sais que le canon à merde va encore tonner contre moi cette fois-ci. D'ici quelques jours, Capital et L'Express veulent tirer leur salve de commande. » Voilà pour le fond et la forme de cette chronique intitulée « L'égout médiatique crache à plein tuyau » alors que les deux journaux s'apprêtaient à publier des enquêtes sur son patrimoine. C'est le temps de réduire la fracture, selon l'expression employée par Jean-Luc Mélenchon dans cette interview au Parisien. Il déclare « Nous déjeunons, nous échangeons des analyses avec Benoît Hamon pour évoquer le rapprochement avec l'ancien frondeur socialiste. Avec le Parti communiste, le ressenti est bien plus nuancé. Il y a d'un côté les relations avec les députés communistes, un travail main dans la main, déclare Jean-Luc Mélenchon. Fracture consolidée en revanche avec la direction du PCF qui multiplie les traquenards selon lui. Alors que les Verts ont disparu selon son analyse. Le peuple doit apprendre à se fédérer loin des fantômes de l'ancienne gauche, espère maire Jean-Luc Mélenchon, qui lancera certainement un appel à la remobilisation ce week-end.
Sophie Delpont, merci à vous. On salue l'invité de ce journal, Pascal Perrineau. Bonjour.
Bonjour.
Politologue donc au CEVIPOF, vous avez dirigé un ouvrage collectif sur le vote disruptif qui aurait marqué les dernières élections nationales. Alors on va revenir tout à l'heure sur la rupture politique provoquée par l'avènement d'Emmanuel Macron. Mais là, on en voit, on a l'impression, les leçons tirées par la gauche et Jean-Luc Mélenchon, cette idée d'en finir avec les vieux fantômes de la gauche. La disruption, elle est aussi à gauche?
Bien sûr, la disruption, elle est littéralement partout. On l'a bien vu au moment électoral, que ce soit la présidentielle comme les législatives, et elle continue. Elle continue à droite, écoutons le malaise de la droite aujourd'hui, et elle continue son œuvre à gauche autour de l'entreprise de Jean-Luc Mélenchon, qui acte quoi ? Qui acte la mort de l'ancien système de partis qui avait organisé la gauche pendant plusieurs décennies autour d'un fort parti socialiste qui organisait l'union des gauches.
Tout ça, parti socialiste est mort.
Tout ça, c'est terminé. Le Parti socialiste est en piteux état. Il n'est pas encore complètement mort, mais il est en piteux état. Et au fond, Jean-Luc Mélenchon a essayé deux stratégies. Il a essayé, lors de la rentrée, une stratégie d'être le vecteur politique de la fronde sociale contre la réforme sur le Code du travail. Ça n'a pas marché, et lui-même le dit. Au fond, c'est un assez bon observateur, c'est un acteur, mais aussi un observateur.
On a perdu le point sur la mobilisation.
Et donc maintenant, il tente, au fond, d'organiser davantage sur les décombres des vieux partis de gauche un espace protestataire de type, et ça n'est pas du tout une injure dans ma bouche, de type populiste, comme la gauche espagnole connaît cela autour de Podemos, comme la gauche grecque a connu ça autour de Syriza. Et bien sûr, pour cela, il a besoin de trouver des acteurs. Parce que Jean-Luc Mélenchon tout seul, on l'a vu à la dernière élection, c'est 19%. S'il veut retrouver une vocation majoritaire à gauche, il est obligé de trouver des partenaires.
Pascal Perrineau, merci. On vous retrouve dans quelques minutes pour notre séquence interview. C'est à présent le genre d'institution qui cristallise toutes les passions du moment. Décider de ce qu'il faut mettre ou ne pas mettre dans les programmes scolaire de nos enfants. C'est la mission du Conseil supérieur des programmes, un poste très sensible donc. En septembre, le président du Conseil, Michel Lussou, avait claqué la porte avec fracas sur un désaccord de fond avec le nouveau ministre Jean-Michel Blanquer. On connaît son successeur point médian, eux, depuis hier, Hélène Masquelier.
Et le nouveau président est une présidente, c'est Swed Ayada, qui reprend le poste de Michel Lussou. Membre de l'inspection générale de l'éducation nationale, docteur en philosophie, c'est donc à elle que revient ce cadeau empoisonné. Car depuis sa création il y a 4 ans par l'ancien ministre Vincent Peillon, l'instance ne cesse d'être critiquée pour sa position on ne peut plus ambiguë. Composée d'experts, d'enseignants et de parlementaires de gauche comme de droite, le CSP a pour mission de concevoir les programmes scolaires et les épreuves des examens. Son objectif est de garantir une réflexion transparente et indépendante au-delà des débats partisans. Mais l'instance reste placée sous l'autorité de l'éducation nationale, ce qui ne manque pas de créer des conflits de nature idéologique. Et Michel Lussou, lui, en a fait les frais. L'ancien président nommé en 2014 par Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre de l'Éducation, a claqué la porte du Conseil. Il accuse directement l'actuel ministre Jean-Michel Blanquer de prendre des décisions partisanes et d'imposer un jeu politique au Conseil. Et ce n'est pas le premier à partir, car en 2014, le président Alain Boissineau démissionne, lui en clamant que l'instance n'est pas assez solide pour assurer à bien ses missions. En mai 2015, c'est Jacques Grosperrin qui se retire du Conseil, dénonçant l'instance comme étant rien de moins que le bras armé de l'éducation nationale. Ainsi, reste à savoir si Swed Ayada suivra la ligne politique du gouvernement ou si de nouveaux conflits idéologiques sont à attendre, car le ministre de l'Éducation nationale, lui, semble bien déterminé à détricoter les réformes précédemment mises en place sous la présidence de François Hollande.
Hélène Masquelier, merci. On l'a surnommé le tireur de Libé, mais les faits pour lesquels Abdelhakim Dekar est jugé depuis une semaine aux Assises de Paris sont beaucoup plus lourds. En 2013, l'accusé avait certes attaqué la rédaction de Libération, blessant grièvement un photographe, mais avant cela, il s'en était pris aux locaux de BFM TV et d'une agence de la Société Générale. Le procès d'Abdelhakim Dekar s'achève donc aujourd'hui. La parole est à la défense après que ce matin, l'avocat général a requis une peine de 25 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers, Florence Sturm.
Un réquisitoire à la fois sobre et pédagogique. L'avocat général retient deux tentatives d'homicide, une à BFM TV où Abdelhakim Dekar n'a pas tiré mais bien visé le rédacteur en chef de la chaîne, l'autre bien sûr à Libération. Et il balaie la thèse de l'accusé qui dit s'être senti menacé par l'assistant photographe et parle d'un acte accidentel. Argument invraisemblable pour le ministère public. Il utilise un fusil à pompe, des cartouches faites pour tuer, il tire à faible distance, poursuit Bernard Faré. Il a fallu de très peu, quelques centimètres, pour que la victime ne meure. Dans son box, l'accusé penche la tête vers le sol. Mais pour déterminer la peine, un troisième paramètre s'invite, c'est le mobile, reprend l'avocat général. La défense nous parle d'un mobile politique, la réalité c'est qu'il y a un magma dans le cerveau de cet homme. Un ressentiment contre la société tout entière, où il mêle l'injustice sociale, la corruption, l'hostilité contre les demandeurs d'asile. C'est Descartes qui fait du Descartes, lance l'avocat général. Un mensonge qu'il se fait à lui-même, même car son histoire est une succession d'échecs. Et de rappeler ses antécédents judiciaires, sa condamnation dans l'affaire Maupin, sa défense c'est aussi de dire qu'il voulait mourir sous les balles des policiers parce que vis-à-vis de ses enfants, c'était mieux qu'un suicide au somnifère. La réalité, je ne la connais pas, conclut l'avocat général, mais c'est totalement inconvenant de mêler ses enfants à cela, une construction pour lui permettre de se supporter lui-même. Encore une fois, répète-t-il, c'est Descartes qui fait du Descartes.
Le verdict est attendu tard dans la soirée.
Midi 44 sur France Culture, la suite du journal de Camille Manière. Le nouveau président du Zimbabwe a prêté serment ce matin dans un stade d'Harare plein à craquer.
Une foule et un pays qui espère donc tourner la page. Robert Mugabe, le vieux despote qui a finalement accepté mardi de quitter le pouvoir qu'il occupait depuis plus de 35 ans. Mugabe qui a obtenu une forme d'immunité pour rester dans son pays. Et la transition appelée par la rue qui se fait donc plutôt dans la continuité. C'est justement cela qu'incarne le nouveau président Emmerson Mnangagwa. Retour sur son investiture depuis Harare avec Valentine Rioux.
Le grand stade d'Harare est plein à ras-bord. Les Zimbabwéens sont venus en masse assister à l'investiture de leur nouveau président. Emmerson Mnangagwa apparaît sur la scène blanche dressée au milieu du stade. Sous les acclamations de la foule, il signe sa prestation de serment avant qu'on lui remette les insignes de la présidence. Pour les Zimbabwéens réunis ici, c'est une grande première. Personne n'a jamais assisté à une investiture présidentielle auparavant. Sur les gradins, des bannières proclament « Nous sommes tous Zimbabwéens » et appellent à une aube nouvelle, mais les divisions ont loin d'avoir disparu avec Robert Mugabe. Les généraux prêtent serment un à un, mais l'apparition du chef de la police accusé de ne pas avoir soutenu le coup de force des militaires la semaine dernière provoque les huées de la foule qui lui demande de partir. Des rumeurs entouraient ce matin la venue de l'ancien président Robert Mugabe qui devait inspecter les rangs de l'armée, mais il est finalement absent. Emmerson Mnangagwa prend quant à lui les rênes du pays en grande pompe, adoubé par l'armée et les chefs de l'État de la région, dont plusieurs assistent à cette cérémonie d'investiture.
Et Valentine Rioux à Harare, donc, est première prise de position forte du président Mnangagwa. Il promet d'indemniser les fermiers blancs du Zimbabwe que Robert Mugabe avait fait expulser violemment de leur propriété au début des années 2000. En Afrique du Sud, peine de prison plus que doublée en appel pour Oscar Pistorius. L'athlète paralympique vedette déchue du sport international a vu ce matin sa peine de prison passer de 6 à 13 ans et 5 mois. Pistorius, condamné en 2016 pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp de 4 balles de pistolet. En Allemagne, ils étaient sous pression depuis des semaines pour revenir à la table des négociations. Les sociaux-démocrates du SPD ont finalement décidé de donner une chance aux pourparlers qui bloquent depuis un mois pour donner au pays une coalition de gouvernement. Marie-Pierre Véraud, cette décision n'a pas été facile à prendre. Le patron du SPD, Martin Schulz, ne voulait pas participer aux négociations.
Et cet infléchissement intervient après 8 heures de réunion entre les principaux dirigeants du SPD sous la houlette de Martin Schulz. Ce dernier avait pourtant été catégorique le week-end dernier, lors de l'échec des négociations entre la CDU, les Verts et les Libéraux. Il n'y aurait pas de nouvelle grande coalition. La défaite historique des sociaux-démocrates aux législatives après 4 années de pouvoir avec la CDU lui semblait le meilleur argument pour reconstituer ses forces dans une cure d'opposition. Oui, mais voilà, le président allemand, social-démocrate, lui aussi ne l'entendait pas de cette oreille. Et la position radicale de Schulz ne faisait pas forcément l'unanimité dans son parti. Mercredi, déjà, Bild rapportait que 30 élus SPD au Bundestag Bundestag sur 153 s'interrogeaient. Hier soir, l'actuel ministre de la Justice, un social-démocrate, estimait que le parti ne pouvait se comporter comme un enfant qui boude dans son coin. Et ce matin, c'est donc le secrétaire général du mouvement qui déclare que son parti est convaincu qu'il faut discuter et qu'il n'y sera pas fermé. Mais rien n'est dit du cadre de ces discussions. Avec quel parti? Serait-ce pour former une nouvelle grande coalition avec la chancelière ou soutenir un gouvernement minoritaire et s'engager à ne pas se livrer à une obstruction systématique? Pour l'heure, pas de précision, mais une indication peut-être. Le président allemand recevra en effet, apprend-on, ensemble la semaine prochaine, la chancelière sortante et le président du SPD. Le numéro 1 de la CSU sera également présent. CDU, CSU, SPD, les trois partis qui dirigeaient l'Allemagne dans la grande coalition sortante. En tout cas, avant de discuter avec les autres, le SPD va sans aucun doute poursuivre les discussions avec lui-même. Pour le vice-président, par exemple, si le parti souhaite revenir sur son refus de toute coalition, de toute grande coalition, il devra interroger la base.
Marie-Pierre Véraud, merci. Voilà à présent qui en dit long sur l'ampleur des tensions, le mot est faible, qui agite le Moyen-Orient, cette guerre, ces guerres d'influence que se livrent l'Arabie Saoudite et l'Iran. Dans une interview au New York Times datée d'hier, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman décrit l'ayatollah iranien Khamenei comme le nouvel Hitler du Moyen-Orient. Comparaison historique détaillée avec cette phrase. Nous avons appris de l'Europe que l'apaisement ne marche pas. Nous ne voulons pas que le nouvel Hitler de l'Iran donc refasse au Moyen-Orient ce qui s'est passé en Europe. Fin de citation de Mohammed bin Salman. À midi passé de 48 minutes, c'est la séquence interview de ce journal avec vous, donc Pascal Perrineau. Faut-il le rappeler, vous êtes politologue, chercheur au CEVIPOF Sciences Po, et c'est justement aux presses de Sciences Po que vous faites paraître cet ouvrage collectif que vous avez dirigé, Le vote disruptif, retour sur les élections présidentielles et législatives de 2017. Avec moi pour mener cette interview, le chef du service politique de France Culture. Bonjour Ludovic Pietenu.
Bonjour à tous.
Alors on va démarrer, Pascal Perrineau, sur ce mot disruptif, voilà qui fleure bon le jargon des start-up et du marketing. C'est pas un hasard hein, s'il s'impose en politique autour d'Emmanuel Macron.
Et vous savez, ce mot a une histoire plus ancienne et avec des gens très sérieux. Dès le milieu des années 90, un professeur de Harvard, Christensen, écrit un livre extrêmement intéressant sur, si on traduit, le dilemme de l'innovation, où il montre comment, avec les nouvelles technologies, les marchés traditionnels sont profondément perturbés et cela peut provoquer la chute des grandes entreprises. C'est une réflexion qui, au départ, est une réflexion dans le domaine de l'économie, de l'entreprise et du marketing.
Et qui là s'applique à notre paysage politique ?
Voilà, et peu à peu, toute une série de jeunes pousses, en particulier autour d'Emmanuel Macron, connaissent cette littérature, qui a été introduite en France, d'ailleurs, par l'ancien patron de TBWA, Jean-Marie Dru, qui a écrit aux États-Unis d'abord, en 1997, si ma mémoire est bonne, un ouvrage qui s'appelait Disruption, et ensuite qui l'a traduit, mais tout à fait récemment en France, en 2016. Donc, si vous voulez, l'arrivée en France de tous ces concepts est tout à fait récente, mais c'est ancien et quelque part, toute une série de jeunes esprits se sont dit, ben voilà, à côté du marché économique, il y a un marché politique, introduisons ce type de technique disruptive sur le marché politique et ça a apparemment pas mal marché.
J'ai introduit une disruption dans cette interview, question de Ludovic Pietenu.
Oui, vous nous expliquez dans cet ouvrage, Pascal Perrineau, que ça génère un cycle de destruction créatrice. Vous le pointez dans le livre, c'est le chapitre d'Anne Muxel. Cette disruption n'a pour autant pas conduit à une déferlante. On n'a pas une mobilisation massive, mais modérée, dit Anne Muxel.
Oui. Pourquoi ? Parce que, vous savez, quand un vieux monde disparaît, qu'un nouveau monde hésite à naître, on est dans une période intermédiaire, dans une période de crise. C'était Gramsci qui écrivait dans ses lettres de prison il y a bien longtemps. Qu'est-ce que c'est que la crise ? C'est quand le vieux meurt et que le neuf hésite à naître. Un vieux monde politique, qui est celui qui s'était remis en place après la Seconde Guerre mondiale, ce cycle d'une démocratie représentative qui se reconstruit sur les décombres des régimes autoritaires et qui est organisé autour d'une bipolarité entre la gauche et la droite, enfin ce que nous avons connu depuis des décennies, ce vieux monde est en train, en effet, de se déliter, de se défaire. Et le nouveau monde, eh bien, les gens ne voient pas très bien de quoi il sera fait. Donc, il y a une hésitation. Et cette hésitation se traduit en particulier, eh bien oui, dans le retrait du système. Des gens qui se mettent au bord du chemin pour regarder le spectacle politique et le spectacle de la recomposition. C'est ce qui explique les records d'abstention que nous avons connus.
2017, c'était dans le top 3, je crois, des présidentielles les moins mobilisatrices de la 5e République. Cette année 2017, vous écrivez aussi à balayer ces partis politiques traditionnels, à tuer le clivage droite-gauche. Le Parti Socialiste est à terre, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est le chapitre 19 de Gérard Grimbert. Et puis les Républicains à droite qui vont se choisir très bientôt un chef les 10 et 17 décembre. Pour autant, vous pensez que c'est un parti qui est durablement affaibli. Ça, c'est votre chapitre, Pascal Perrineau.
Oui, en effet, si vous voulez, pour l'instant, on ne le voit pas tout à fait parce que François Fillon, qui était le candidat des Républicains, a fait de la résistance en dépit, en effet, de toutes les affaires que l'on a connues pendant des mois et des mois. À la fin des fins, il rassemble 20% des suffrages exprimés et il s'invite presque au second tour. Il est à quelques centaines de milliers de voix derrière Marine Le Pen. Donc il y a eu une résistance, en effet, de cette France d'une droite conservatrice plutôt,
et libérale.
Voilà, conservatrice libérale, qui est plutôt d'ailleurs implantée en région que dans les grandes métropoles, et en particulier la région parisienne. Donc il y a une résistance, mais derrière cela, au fond, la droite est touchée par le même processus disruptif que la gauche. Manuel Valls avait très bien dit, les gauches sont devenues irréconciliables. Eh bien, les droites, aujourd'hui, sont devenues irréconciliables. C'est ce à quoi on est en train d'assister.
Pascal Perrineau, je ne résiste pas à l'envie de faire participer à ce débat. Raymond Depardon, bonjour.
Bonjour.
Notre invité spécial donc, de la Grande Table. Vous scrutez, vous, la population française, la politique vue par vraiment le terrain dans vos documentaires, dans votre travail photographique. Cette recomposition du paysage politique, vous y croyez, vous la constatez, ou est-ce que le peuple, lui, change vraiment et adhère à cette disruption?
Non, je la constate. Je l'ai constaté dès 2004, quand je suis parti sur la France, faire des paysages un peu, et que je voyais bien qu'il y avait un décalage entre, à l'époque, c'était Jospin à Paris, qui était Premier ministre, et tout le monde me disait, mais tout va bien. Et moi, je voyais que la province allait très mal. Et puis, inversement, j'ai travaillé jusqu'en 2010. Et j'ai vu, tout le monde disait, la province va mal. Et puis moi, je voyais qu'au contraire, tout le monde, enfin les régions, il se passait quelque chose. Il se passait notamment quelque chose, notamment au point de vue féminin. C'est-à-dire qu'il y avait plein de jeunes femmes dans ces petites villes, des sous-préfectures, dans ces petites communes rurales, qui disaient, moi, je veux pas rejoindre les grandes communes, les grandes villes, la banlieue, etc. Et elles restaient là. Et qu'elles me disaient, si un de nous deux dans le couple a un emploi fixe, on reste là. On fait, et puis je voyais, j'étais doublé par des camionnettes comme la mienne, géothermie, capteurs solaires, donc je voyais bien qu'elles bougent. Et donc tout ça fait partie d'un ensemble, ça va prendre du temps, bien sûr ça va prendre du temps. Et puis au fond, j'y crois beaucoup, parce qu'il s'est passé quand même une révolution là, quand même, les dernières élections. Il y a des jeunes, puis qui sont pas forcément des gens des grandes cités, et tout ça change. Tout change un peu et c'est tant mieux. Moi, j'en suis ravi.
Alors, reste à savoir, Raymond Depardon, on va se tourner à nouveau vers Pascal Perrineau, si cette évolution du monde politique va venir en concordance avec l'évolution qu'on constate depuis plus longtemps dans la population, dans les aspirations de la population. Est-ce qu'il va y avoir vraiment une jonction qui va se faire?
Ça demandera forcément un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que le temps politique est un temps plus long que le temps social dont parle Monsieur Depardon, et que l'on voit bien, en effet, quand on est attentif aux images de ces films. On voit bien, au fond, que c'est un cinéaste aussi qui donne à voir des fractures dans la société française, qui les rend visibles. Alors, bien sûr, il y a un temps d'inertie du côté du monde politique. Le monde politique change lentement. Le temps est long. Mais ça y est, l'heure est venue de l'adaptation du monde politique au clivage d'en bas, aux clivages territoriaux, aux clivages sociaux, qui sont des clivages d'en bas. On a eu tout de même un second tour inédit. Marine Le Pen, Macron, mais derrière le casting, c'est pas très important le casting, même les personnalités. Qu'est-ce qui se dit sur la société française? La gauche et la droite out, dans leurs deux grands partis, et un nouveau clivage qui se donne à voir, qui a quelque chose à voir avec les fractures territoriales dont nous parlons.
Et pour prolonger cette analyse, ces analyses, je renvoie donc Pascal Perrineau au livre que vous avez dirigé aux presses de Sciences Po, Le vote disruptif. Donc merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Olivia.
Juste un mot, Raymond Depardon, vous avez filmé la politique en campagne, vous avez filmé une jeunesse en campagne, une jeunesse entrant dans l'histoire, mais c'était pas celle d'Emmanuel Macron, c'était celle de Valérie Giscard d'Estaing en 74. Vous avez peut-être manqué pour le coup de refaire le même film, est-ce qu'à son époque, 74, vous diriez que Giscard était déjà disruptif?
Oui, il y a quelque chose, il y a des points en commun quand même entre Giscard et Macron. Oui, il y a une nouvelle génération qui arrive. Je pense que ça, il faut peut-être, oui, mais il y a aussi, bien sûr, c'est aussi le film Les Habitants avec notre camping-car, comme ça, une caravane. On s'est baladé dans la France, puis on a laissé parler, et notamment le discours féminin, qui déjà pointait cette certaine injustice des histoires d'enfance en partage, cette colère comme ça un peu sourde, elle était là déjà avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc effectivement, tout ça fait contribuer, comme me dit Monsieur Perrineau, et très justement, ça va prendre du décalage un peu, parce que voilà, mais on va dans le bon sens. Moi, je suis de nature optimiste, voilà.
Avant de vous retrouver, peut-être un petit mot de météo.
Mais oui, tout à fait. Avant de retrouver notre invité, donc Raymond Depardon. La météo pour cet après-midi, c'est de la pluie qui s'étend sur le Grand Est, l'Aquitaine, le Centre et Rhône-Alpes, des éclaircies de Nantes à Paris et une nouvelle perturbation qui nous arrive par la Bretagne. Le thermomètre affiche 10 degrés cet après-midi à Brest et Cherbourg, 12 à Paris, 13 à Mulhouse, 14 à Bordeaux et 16 autour de la Méditerranée. Ce journal était réalisé par Yacine Bouzard à 18h. Prochaine édition en compagnie de Benoît Bouscarel.